L'heure H. Jean-Louis Lahaye.
Il est aux environs de 14h30. Nous sommes le 1er décembre 1691. Le vent chante cet après-midi à Salem Village, dans la région de Boston. Glacial hiver que celui vécu par ces paysans sans cesse victimes d'une famine qui pèse autant au creux des estomacs que dans les esprits. Tituba, l'esclave amérindienne du révérend de la petite communauté, est occupée à sortir les eaux usées de la maison quand un bruit, celui d'un enfant hurlant au désespoir, attire son attention. Sans réfléchir, d'instinct, elle se précipite dehors. Et dans quelques instants, la fureur des procès en sorcellerie de Salem va connaître sa genèse. Il est 14h30. C'est l'heure H de mon histoire. Notre histoire commence quelques heures plus tôt, au cœur d'une communauté rurale en plein malheur. Salem Village se trouve à quelques encablures de Salem Town, ville portuaire en expansion et dont l'hiver glacial y impacte moins l'économie. En effet, le petit village rural en contrebas de la vallée, lui, souffre le martyr. C'est là que vivent les personnages principaux de notre histoire. Tituba est de ces esclaves qui, dans une vie précédente, auraient pu avoir l'allure d'une courtisane. Vendue à la Barbade au révérend Paris, qui officie au sein de la communauté, ses origines amérindiennes lui donnent le teint mat et des compétences particulières. Surnaturelles, si vous préférez. C'est dans ce cadre, propice aux écarts occultes et à la peur, que va se dérouler l'histoire que je m'apprête à vous raconter. Un hiver glacial. Des récoltes qui seront foutues avant même la naissance des premiers bourgeons. La faim qui tenaille les estomacs et les esprits frappés par la peur d'une attaque des tribus amérindiennes. Tout est réuni pour que la zone se transforme en une immense et incontrôlable poudrière, en réceptacle de tous les fantasmes. Tituba, dont la matinée fut consacrée aux corvées que nécessite l'entretien de la grande maison du révérend Paris, est interpellée peu après 11h par les deux âmes les plus pures qu'elle ait jamais connues. Elisabeth et Abigail, fille et nièce du révérend, sont venues lui demander quelque chose de bien particulier. Vêtue de la tenue traditionnelle dévolue aux petites filles de ces communautés dont la religion est des plus extrémistes, à savoir tablier blanc, bonnet de tissu sur la tête et robe grossièrement taillée descendant aux chevilles, elle ressemble à des jumelles en quête d'aventure. Et aujourd'hui, elle demande à l'esclave de la maison de leur apprendre à dire l'avenir. Âgées de 9 et 11 ans, les deux fillettes n'en sont pas à leur coup d'essai. D'ailleurs, en cachette des adultes qui les puniraient pour cela, elles s'essaient régulièrement à l'art de la divination. C'est la première fois qu'elles osent demander à Tituba et à son aura païenne de les aider. De peur d'être embêtée en cas de problème, la servante refuse. Mais la fille du révérend a plus d'un tour dans son sac. Elle menace Tituba d'inventer de toutes pièces une histoire à son père qui la mettrait en cause. Elisabeth pose la question à la servante. « Qui croira-t-il, Tituba, entre son enfant et une esclave ?» Contrainte d'accepter par la force, courroucée par ces deux gamines qui se croient tout permis par le seul fait d'être bien nées, l'esclave se décide à agir. Ah, elles veulent voir ces deux petites pestes à quoi ressemble l'art divinatoire. Eh bien, elles vont être servies. Voilà à quoi conduit parfois le manque de politesse et l'insolence. Les trois apprenties sorcières se réunissent au fond du grenier de la maison Paris. Tituba a demandé aux fillettes d'apporter des bougies et des allumettes. Placées en cercle, leurs flammes dansent les unes avec les autres. Et au dehors, la tempête de neige redouble bientôt d'intensité. Les carreaux cassés du grenier laissent passer les flocons et les courants d'air. Les fillettes, déjà, sont totalement scotchées par l'atmosphère. L'obscurité, tituba les fixes du regard. Sa peau est sombre. Son regard noir comme la nuit se pose dans celui des deux petites, totalement apeurées, qui n'osent même plus bouger l'oreille. Un demi-cercle de bougies les sépare, mais la porte du grenier qui leur permettait d'entrer de nouveau dans le monde qui leur est familier est du côté du Tituba. Elles vont devoir subir ce qu'elles ont demandé, une séance de divination. D'une voix caverneuse, annonciatrice de malheur, la servante commence à lancer des formules dans une langue totalement inconnue des deux petites, sa langue maternelle, issue des racines et des profondeurs de cette terre que foulent les descendants d'émigrés européens sans la comprendre. Ils ne sont pas chez eux. Et voilà pourtant qu'ils imposent leur religion, leur rite, leur fonctionnement. Qu'ils épuisent la terre et asservissent les populations locales. Et alors que Tituba, en premier lieu, voulait juste effrayer les insolentes fillettes, la voilà prise d'une rage qu'elle peine elle-même à contrôler. Sa mère, alors qu'elle n'était pas plus âgée que les gamines terrorisées en face d'elle, lui a appris deux ou trois tours de magie permettant de se connecter sans danger avec l'autre monde, celui des esprits et de la terre éternelle. La voix de Tituba, bientôt, change de tessiture et prend une profondeur caverneuse. Le vent autour d'elle épouse le cercle des bougies et les flammes, qui continuent de danser, semblent prises d'une vigueur tout à fait singulière. De l'autre côté du cercle, les deux fillettes, comme paralysées, sont submergées par les énergies qui entrent et sortent par la porte du grenier et par les carreaux cassés. Au dehors, la tempête de neige ne semble pas du tout se calmer. Tituba continue ses rites. Elle hausse le ton et les objets du grenier semblent prendre vie et se rapprocher des deux petites filles pour les prendre au piège. Si elles étaient sûres d'elles lorsqu'elles mettaient la pression à l'esclave de la famille, elles ne le sont désormais plus du tout. Une peur panique, terrifiante, monstrueuse les envahit. Leurs jupons frissonnent de terreur et, assises en tailleur, Elisabeth et Abigail se figent telles des statues de cire incapables du moindre mouvement. Oh, Tituba voit bien qu'elles sont dans un état second, assommées par une terreur sourde, primitive. Mais elles ne s'arrêtent pas là, non. Non, elles doivent prendre une bonne leçon, ces deux petites pestes. Et encore une fois, la servante augmente l'intensité de ses mots. Mais elle commet l'erreur au détour d'une phrase. D'en appeler au démon. Elle ne s'est pas rendue compte de son geste, Tituba. Pas du tout même. Pour elle, bien c'est un jeu. Mais l'évocation de ces mots ancestraux en face d'elle va provoquer une véritable catastrophe. Sitôt les terribles mots primitifs prononcés, Abigail, la nièce du révérend, est prise d'une vision. Là, droit devant elle, au milieu du cercle, apparaît sorti de derrière les mâles du grenier un spectre. Terrifiant, ancien, il la regarde d'un air curieux, la tête penchée sur le côté. Oh, il n'a pas une forme humaine, non. Des cornes surplombent une tête déformée et au sein de laquelle des yeux rougeoyants éclairent avec viva une âme brisée. Et Elisabeth, elle, depuis un moment, a les yeux fermés. Elle ne voit donc pas l'apparition maléfique. Alors, sa cousine, avec force, trouve le courage de lui saisir le bras et de se diriger à toute vitesse vers la porte du grenier pour sortir. C'est le retour dans le monde des vivants. En sortant de la maison pour prendre l'air, les deux fillettes qui ne se sont pas arrêtées de courir se promettent de ne plus jamais ennuyer Tituba. L'esclave, elle, est satisfaite. Prise dans sa transe, elle n'a pas vu non plus l'apparition spectrale. Elle clôt donc la séance et retourne à ses occupations. L'histoire aurait pu s'arrêter là. Mais parfois, on ne mesure pas vraiment la portée que nos petites actions individuelles peuvent avoir. Et ici, c'est la communauté tout entière qui va bientôt en faire les frais. Sitôt sorties de la maison, les deux petites vont immédiatement être victimes de drôles de symptômes. se mettent à parler une langue inconnue, sautillent et se tiennent par la main. Elles traînent des pieds pour marcher et, parfois encore, sans raison, elles vont se cacher, paniquer, dans un endroit reclus. Pire encore, 2 heures après la fin de la séance, elles sont prises de convulsions et d'hallucinations. Bien entendu, on les conduit à leur père et oncle, le révérend Paris, sommité de la région en matière de religion. Terrifié par ce qu'il a sous les yeux, il fait venir le médecin de Salem Town qui, ne pouvant expliquer rationnellement ce qu'il voit, conclut à un cas de possession démoniaque. Alors pris de panique, le révérend cherche une solution. Cependant, ça n'est pas tout. À l'intérieur de leur maison ou dans la rue, sous une neige épaisse et un vent tout à fait anormal, 6 autres fillettes vont commencer à convulser et à voir le démon aux yeux rouges invoqué par Tituba. Soudain, une chape de plomb tombe sur Salem. Le diable vient d'entrer par la grande porte dans notre histoire qui, vous allez le voir, ne va pas tarder à dépasser l'entendement. Le dimanche suivant, le révérend Paris est, comme vous pouvez l'imaginer, particulièrement embêté au moment de faire son serment à sa petite communauté de croyants. L'air grave, le bras gauche appuyé sur l'autel, comme en recherche de contact direct avec Dieu, l'homme d'église est tout particulièrement noué par le stress. 2 des 8 petites victimes de cette malédiction vivent dans sa propre maison. Et vous pouvez comprendre, tout comme moi, son embarras, d'autant qu'on ne peut à l'époque s'imaginer que des enfants de cet âge peuvent être possédés de leur propre volonté. Autrement dit, le sort a été téléguidé par quelqu'un, ou, comme il semble que ce soit le cas ici, devant le grand nombre d'enfants atteints par plusieurs personnes. Et c'est là que le bât blesse. Rendez-vous compte. Au cœur d'un hiver cataclysmique pour la population, cette toute petite communauté d'à peine quelques centaines de personnes hébergerait plusieurs sorcières ou sorciers qui sont d'ailleurs même peut-être là, aujourd'hui, l'air de rien, à l'écouter dans son église. L'exercice du démasquage est tortueux, difficile. Comment faire pour tenter de percer à ce jour ce secret sombre et délicat? Mais avant même que commence l'enquête, voici le sermon, prononcé dans une atmosphère à couper au couteau où tous se regardent en chat de faïence. Comme à son habitude, le révérend Paris a bien pris le pouls de son assemblée. Il axe son discours autour de la résilience, de la mise à l'épreuve que leur envoie le Seigneur aujourd'hui et de la nécessité de débusquer ses ennemis de Dieu. Un discours radical, comme il en est coutumier. Alors qu'il achève son homélie, lui vient l'idée toute simple de demander directement aux enfants atteints par le mal qui les a ensorcelés. Après tout, ce qui sort de la bouche des enfants est vérité, non ? Les semaines suivantes s'en suivent donc des cérémonies tout à fait lunaires où les 8 enfants sont réunis autour des notables du village et du révérend Paris. La question leur est posée de savoir qui a bien pu leur jeter ce mauvais sort. À la surprise générale, 3 noms ressortent au cours de ces interrogatoires, dont celui que vous connaissez déjà, celui de Tituba. Les 3 femmes sont alors mises aux arrêts et jetées en prison. C'est un choc pour toute la communauté. En effet, si Tituba a contre elle la différence culturelle et ethnique, les 2 autres femmes pointées du doigt n'ont rien de femme isolée et rejetée par la société. Bien au contraire. Elles sont mariées, ont des familles, vont à l'église chaque semaine, mais le révérend tient bon. Le malin peut se cacher partout. Le 1er mars 1692, les 3 femmes sont officiellement accusées de sorcellerie. La machine des procès est lancée. Alors que tout le monde est persuadé que les coupables sont hors d'état de nuire, il n'en est rien. Bien au contraire. Les jeunes filles continuent à montrer des manifestations rappelant le diable et ses disciples. Abasourdi, le révérend Paris doit se rendre à l'évidence. Certains soldats du malin se trouvent encore dans son église. Le cercle vicieux, lui, ne fait que s'étendre. Les notables se trouvent face à la nécessité de réclamer d'autres noms aux enfants. En effet, il paraît clair que si les possessions continuent, il est impossible que ce soit les trois sorcières enfermées qui continuent à sévir. Les fillettes s'exécutent. Et ce sont sept noms qui sortent de leur râle lors des cérémonies. Mais cette fois, un couple est concerné. Et surtout, la fille de l'une des accusées, qui, tenez-vous bien, est âgée de seulement 4 ans. Alors quoi ? Toute la communauté serait-elle gangrénée de suppôts de Satan ? Le révérend Paris, en tous les cas, ne se pose pas plus de questions. Il fait arrêter tout le monde, sans exception. Mais là encore, malheureusement, ces mises au cachot n'indiquent pas le phénomène, bien au contraire. De nouveaux noms sont réclamés et les accusés viennent remplir les prisons qui débordent. Cela vient mettre à mal une première théorie qui s'était rapidement répandue après l'affaire. Celle qui voudrait que les prétendues sorcières et sorciers soient tous des gens en marge de la société. C'est absolument faux, bien au contraire. Seules 2 femmes vivaient en effet à l'écart ou dans la misère. Pour le reste, on parle ici de femmes et d'hommes parfaitement bien intégrés, parfois même avec un niveau de vie tout à fait confortable et une position sociale assurée. Tous, en tous les cas, clament leur innocence. Non. Non, ils ne sont pas des sorciers. Et non, personne n'a été jeté un mauvais sort aux fillettes contaminées par ce mal étrange. Tous. Pas vraiment. Une femme va avouer être coupable d'actes de sorcellerie. La fameuse Tituba. Mais arrêtons-nous un instant sur son cas, si vous le voulez bien. La légende, toujours tenace quand on évoque l'affaire de Salem, voudrait que Tituba ait été noire de peau et originaire de la Barbade. Là encore, feu rouge. Tituba était amérindienne, donc certainement mate, mais pas noire. Et elle a été vendue à la Barbade, mais bien née sur le sol américain. Une fois ces 2 erreurs percées à jour, intéressons-nous maintenant à son cas et à ses aveux. On présente souvent là aussi l'esclave comme isolé, ne serait-ce que par sa condition. C'est oublier l'un des aspects de la vie des gens victimes de l'esclavage, du moins l'un de leurs droits, celui de se marier. Et Tituba ne fait pas exception. Elle a pris pour époux un homme en 1689, soit un peu plus de 2 ans avant le début de l'affaire. Elle est même mère d'une petite Violette. Toute la famille étant logée chez le révérend, on ne peut pas dire non plus que le mythe qui voudrait la faire vivre dans une cabane dans les bois, lieu supposé de rites et de sacrifices, soit fondé. Ce sont surtout ses séances de spiritisme avec les enfants Paris qui vont lui attirer des ennuis et qui la conduiront à son emprisonnement puisque son nom est lâché par les fillettes. Enfin, pas tout à fait. En réalité, alors que les 2 enfants subissent leur première possession, Tituba semble persuadée qu'un chien est à l'origine de tout ce foutoir. Et pour y remédier, elle prépare un gâteau ensorcelé qu'elle fait manger à l'animal. Le révérend l'apprend et foudrage, il fait avouer les fillettes. Il bat alors son esclave jusqu'à sa première confession de sorcellerie. À la différence de ses co-accusés, elle ne se murera pas dans le silence ou dans la protestation. Elle avoue, oui. Et donc, son rôle dans toute cette affaire devient prépondérant. Au fil d'innombrables interrogatoires, la jeune femme comprend que pour éviter la condamnation pour sorcellerie, elle doit être des plus prolixes. Et voilà notre Tituba qui, de confession en confession, avoue ses rites et ses méthodes pour ensorceler les petites filles. Celle du révérend Paris d'abord, puis celle de son entourage. Pire encore, elle ira jusqu'à accuser d'autres personnes d'être ses comparses, conduisant de nombreux habitants de Salem Village derrière les barreaux. Ainsi, et contrairement aux autres, elle devient en effet indispensable aux notables et à Paris, qui, souhaitant en savoir plus, refuse alors de la condamner. Il faut dire que les accusateurs ne sont pas en moyen de mener le procès. Cette zone du futur état du Massachusetts est alors des plus sauvages, des plus reculées, et comble de l'improbable. Il n'y a là-bas aucun représentant de justice et d'autorité. Aucun. Pas même un envoyé de la couronne. Rien. Seul un révérend, garant de la paix religieuse, mais qui, à partir de ce moment-là, n'a plus aucune autorité. Alors pendant plusieurs mois, toute la durée du printemps 1692 en fait, on attend l'arrivée providentielle d'un homme capable de monter une cour de justice pour pouvoir enfin vider les prisons de Salem qui ne cessent, elles, de se remplir. Cependant, le mauvais rêve dont est victime ce petit village de la région de Boston n'a pas encore livré toutes ses surprises. Patience, patience.
L'heure H, Jean-Louis Lahaye.
Aujourd'hui, notre heure H nous plonge au cœur de l'obscurantisme à la fin du XVIIe siècle et tente de déchiffrer l'un des plus légendaires mystères liés à la sorcellerie. L'affaire des sorcières de Salem. Après avoir par jeu procédé à un rite divinatoire, des enfants de la petite bourgade de Salem Village, tout près de Boston, commencent à être victimes de phénomènes que la médecine de l'époque qualifie directement de possession démoniaque. L'affaire prend une épaisseur hors norme pour cette petite communauté. L'autorité quasi divine du pasteur s'arrête aux exorcismes. Pour la justice des hommes, c'est un représentant de la loi qui doit être mandé. À la fin du printemps 1692, la cour de justice finit par arriver sur un sol aussi instable qu'une poudrière prête à exploser. Les procès de Salem peuvent enfin commencer. Nous sommes le 15 mai 1692. Le gouverneur William Phipps est depuis 6 semaines au courant d'une affaire pour le moins particulière. De la sorcellerie de masse. L'homme expérimenté, âgé d'une 40aine d'années, n'a jamais entendu parler d'un truc pareil. William Phipps est de retour au pays après plusieurs années en mer. Ce lascar a déjà de la bouteille et la mer a préservé chez lui un charme et une peau si douce qu'on pourrait facilement lui donner 20 ans de moins. Une perruque vissée sur la tête, presque ridicule dans cette contrée du monde. Des bas blancs immaculés et sa médaille de chevalier au veston, il lève la tête bien haut lorsqu'on son brick accoste dans la ville portuaire de Salem. Il a démarré sa carrière en tant que chercheur d'épaves et puis, de fil en aiguille, il s'est couvert de gloire en rencontrant des gens très haut placés. William a aussi commandé des expéditions militaires contre les Français et leur possession au Canada. Mais ça, c'était un sujet qu'il fallait mieux éviter car il s'était lamentablement planté. En tous les cas, celui qui fit fortune en mettant la main sur le trésor d'un galion espagnol au fond des eaux des Caraïbes arrive avec un ego qui dépasse les frontières, certes, mais aussi avec une mission bien particulière sur les bras. Il vient d'être nommé premier gouverneur de l'État du Massachusetts. Ce cas de possession, c'est l'occasion pour lui d'asseoir son autorité d'entrée de jeu. Du pain béni envoyé par le diable, en somme. En pensant à ce bon jeu de mots issu de son esprit brillant, l'homme esquisse un sourire aussi satisfait que narquois. Il ne le gardera pas longtemps. L'ambiance que découvre William Phillips à Salem Town est des plus particulières. Il note de la part des passants d'incessants signes de croix. Il entend même des messes hurler au travers des fenêtres. Les prisons débordent. Les petites filles qui courent dans les rues sont aussi craintes que respectées. On a peur de se faire accuser de tout et n'importe quoi. Les gens les évitent à tout prix. Et quand ils ne le peuvent pas, leur donnent de l'argent ou une sucrerie. Notre nouveau gouverneur, endimanché et emplumé comme pas permis, est complètement en décalage au milieu de tout ce marasme où la famine, pour ne rien arranger, accompagne la recherche de miséricorde. Heureusement, au bout de la rue principale, l'attend une calèche, direction Salem Village, un peu plus loin. C'est là que le révérend Paris a prévu la première audience. Lorsque le cocher lui pointe la direction, le gouverneur Phipps, qui ne sourit déjà plus depuis longtemps, ne peut s'empêcher de remarquer un détail. De la brume, tout à fait inhabituelle pour cette période de l'année, recouvre le clocher et le haut des pignons de la petite bourgade vers laquelle il se rend. Des frissons lui parcourent l'échine et il se surprend à claquer violemment des dents. Sa rencontre avec le révérend Paris est particulièrement intéressante. Le nouveau gouverneur décide de ne pas se précipiter. Il proclame l'ordre d'instituer une cour. En effet, le temps presse. Cependant, cette affaire à l'exposition des faits ne l'intéresse guère. Il retourne à Boston juste après cette rencontre pour s'en aller fortifier des places dans le Maine. Il nomme son gouverneur adjoint, dont la promotion est encore fraîche sur le papier, président de la Cour de justice. Ce dernier sera accompagné de 7 juges. Le zèle employé par ce gouverneur adjoint, ravi d'obtenir ce poste et impatient de faire ses preuves, va bientôt provoquer de gros dégâts. À la date de la création de cette Cour de justice, qui n'en a que le nom, une des accusées, enceinte au moment de son arrestation, a déjà accouché d'un bébé. Il est mort en cellule, comme vous pouvez l'imaginer, puisque les rats, et ce n'est pas une blague de mauvais goût, ont tout particulièrement apprécié la chair de ce nouveau-né. Une autre femme est décédée et donc n'aura pas le privilège de mourir pendue. Les juges et parties décident de la marche à suivre. Les sessions de justice auront lieu une fois par mois, durant tout l'été. Mais il va falloir démêler le vrai du faux et trouver des preuves. Les témoignages forment certes le premier des ensembles. Et bien entendu, cela n'est pas suffisant. C'est alors que le révérend Paris apporte une idée de génie sur un plateau. La preuve spectrale. Laissez-moi vous expliquer en quoi cela consiste. Généralement, lors d'une crise d'une des victimes, cette dernière voit apparaître soit l'une des personnes accusées, soit le diable sous les traits de cette dernière. Deux cas de figure donc. Soit elle voit apparaître l'accusé et donc ce dernier coupable. Soit il s'agit du diable et dans ce cas, l'accusé est aussi coupable, puisqu'on estime à l'époque qu'il est nécessaire d'inviter le diable à prendre votre apparence. Double preuve de culpabilité donc. La preuve spectrale devient un instrument des plus pratiques pour rationaliser quelque chose qui ne l'est pas. Mais ça, la cour n'en a cure. La première des victimes sera pendue le 10 juin 1692. Devant le grand nombre de condamnés, le recours au bûcher est abandonné. Ce sera donc la pendaison haut et court. Le 19 juillet, 5 autres rejoignent la première victime dans les limbes. Un mois pile plus tard, on procède à 5 nouvelles exécutions, dont 4 hommes, pour sorcellerie. Une première dans le Massachusetts. Le 19 septembre, un d'entre eux, le malheureux Gilles Corré, lui, ne fut pas pendu. Non, il a joué un peu aux rebelles. Ne souhaitant plaider ni coupable ni non coupable, il est condamné au supplice de la peine forte et dure. Pour faire simple, il est placé entre deux planches. On lui empile des pierres dessus pendant 3 jours, ce qui provoque son écrasement et son asphyxie. Il n'a jamais rien avoué durant tout le supplice. Les derniers pendus de Salem le seront, eux, le 22 septembre, le jour de la mort du supplicié. Ils seront 8. Fin de l'histoire des procès. Mais durant cette période, les deux bourgades de Salem Town et Salem Village font face à d'autres difficultés. Entre l'embrasement lié aux possessions, aux arrestations et aux mises en accusation, aux procès et aux exécutions, rien ne va plus. Les bêtes meurent de faim. Les cultures ne sont pas entretenues et les activités commerciales périclitent. Alors qu'ils sortent en plus d'un hiver terrible, la belle saison a pour tous les habitants de la ville un goût de terreur, un goût de sang. Ainsi se terminent les ridicules procès de Salem. D'ailleurs, dès le mois d'octobre 1692, des membres de la Royal Society font commencer à écrire tous leurs désaccords vis-à-vis de la gestion de cette cour de justice. Devant l'explosion de rapports négatifs, le gouverneur Phipps, de retour de ses fortifications, ordonne aux cours de justice de ne plus jamais utiliser la fameuse preuve spectrale dont nous venons de parler. Le tribunal de Salem, lui, est totalement dissous face au scandale. Car oui, le bilan est délirant. 20 condamnés, 29 morts en tout et un tiers de la population mise en accusation. Mais alors, que diable s'est-il passé à Salem ? Eh bien, laissez-moi vous exposer des éléments de réponse.
L'heure H. Jean-Louis Lahaye.
Aujourd'hui, notre heure H se penche sur le cas des procès de Salem. À la suite de possessions démoniaques et juvéniles, une grande partie de la population de deux bourgades situées près de Boston se retrouve en prison. Près de 30 personnes y laisseront la vie et beaucoup d'autres en ressortiront traumatisées. Mais alors, que s'est-il passé à Salem ? Est-il possible d'apporter de la rationalité à cette chasse aux sorcières géantes et débridées ? Vous allez voir, les pistes sont sérieuses. Et elle met à mal l'influence de Satan. Bien. Mettons d'abord de côté, si vous le voulez bien, l'aspect démonologique pour nous concentrer sur des explications qui pourraient être rationnelles. Sans vouloir vous influencer, mais tout de même, vous allez voir, il y a de quoi se poser des questions. Commençons par les plus farfelus dans le rationnel. En premier lieu, on a évoqué la Corée de Huntington. La Corée ? Drôle de nom pour une sale maladie orpheline, héréditaire et incurable. Elle expliquerait pour certains l'état des fillettes tourmentées par le démon. Les symptômes sont légion, de moteur à cognitif. Et ils entraînent une dégénérescence neurologique entraînant la mort. Et c'est là que le bas blesse. Pour être atteint de ce mal, il vous faut déjà généralement être âgé de 50 ans. Ensuite, comme précisé un peu plus haut, cette maladie est héréditaire, orpheline et surtout rare. Elle touche, tenez-vous bien, 0,007% de la population caucasienne. Et on voudrait croire que là, dans la petite communauté de Salem Village et de Salem Town, elle aurait pu toucher toute une série de fillettes, mais pas leurs parents. D'autant plus que certaines d'entre elles sont mortes à plus de 70 ans, ce qui, rappelons-le, ne colle pas avec l'espérance de vie très courte liée à la maladie. Alors quoi ? Pas d'autres pistes ? Pas d'autres coupables ? Oh bah si ! Si, bien sûr que si ! Les autres pistes, au contraire, sont plus solides. Les dernières études sur le sujet pointent du doigt l'ergotisme. L'ergot est un champignon parasite qui pousse sur les céréales. Une fois consommé par l'homme, c'est bien souvent la catastrophe. Deux formes de la maladie existent. Une forme gangréneuse et la « bonjour les dégâts et les odeurs », mais aussi sa forme convulsive. Et là, vous me voyez venir. Les premières manifestations chez les petits étant des convulsions, pourquoi ne pas choisir cette pathologie pour tout expliquer ? Les autres symptômes, des diarrhées aux nausées, en passant par les hallucinations, collent également. De plus, l'ergot se développe surtout quand un temps humide se conjugue à des températures très basses. L'hiver 1691-1692, vous vous en souvenez? L'ergot fait un coupable idéal. Oui, mais voilà, comme souvent, il y a un mais. Il est très visible, ce champignon. Et lorsque la céréale est broyée dans les meules à farine, il en sort une poudre rouge qui alerte alors sur la contamination de la récolte. De quoi peut-être écarter la piste de l'empoisonnement à l'ergot. Mais il est impossible de toutefois fermer totalement la porte à cette idée. Les deux dernières théories, elles, sont plus humaines. Premièrement, celle de l'attention de la communauté. Être une petite fille prépubère à l'époque, autant vous dire que vous êtes tout en bas de l'échelle sociale. Déjà parce que la société entière est régie par un pouvoir masculin et religieux. D'autre part, parce que les petites ne peuvent pas enfanter, ce qui, disons-le, est la principale fonction de la femme à cette époque. Mais grâce à ces accusations, voilà qu'elles deviennent puissantes, les petites possédées. Craintes, respectées. Peut-être que prises au piège de leurs mensonges, ne pouvant faire marche arrière, elles auraient pris goût à cette gloire soudaine. Restent les accusations lancées entre adultes, certes. Mais en tous les cas, une explication se situant entre une contamination à l'ergot et un phénomène social ne serait pas dénuée de sens. C'est d'ailleurs la théorie défendue par les historiens en majorité aujourd'hui. Mais je le sens bien, vous ne me semblez pas encore totalement convaincu. Bon, écoutez, pas de panique. Je suis certain que ma dernière piste, elle, va faire mouche. Putnam. Non, je ne vous parle pas d'ici d'une maladie, d'un champignon ou d'un théorème sociologique, mais d'une famille omniprésente à Salem à l'époque et rivale d'un autre clan en pleine expansion, les porteurs. Leurs différends remontent à bien avant le procès, alors même que Salem Village s'appelait Salem Farm et qu'elle n'était pas alors rattachée à Salem Town. Bon, je n'ai certainement pas le temps ici de vous remonter toute l'histoire de ces deux factions à couteau tiré, mais l'étude des arbres généalogiques de ces deux familles au cœur de cette affaire est particulièrement intéressante. Pour le dire simplement, absolument tous les accusés, et plus particulièrement les condamnés, avaient des contentieux économiques ou familiaux avec les Putnam. Bien vu. Mais là, vous me direz, et à juste titre, pourquoi le révérend Paris, garant religieux de la neutralité d'esprit de sa communauté, aurait-il pris position et joué ce jeu de dupe? Eh bien, figurez-vous que se cache là aussi une sale affaire de gros sous. Laissez-moi vous expliquer. À l'époque, un conseil permanent composé de 5 membres est garant des décisions prises pour la ville. Longtemps aux mains des Putnam ou de leurs partisans, il avait décidé la mise en place d'un nouvel impôt pour permettre l'augmentation des revenus du révérend qui venait de prendre son poste. Mais qui prend, après une manœuvre politique, la tête du conseil? Les porteurs, qui, dans leur première décision, suppriment ce projet d'impôt. De quoi faire grincer quelques dents et, en premier lieu, vous vous en doutez, celle du révérend. Comme par hasard, les deux premières victimes sont deux fillettes de sa famille, dont sa propre fille. Et la seule acceptant de plaider coupable, son esclave, la fameuse Tituba. Parlons-en d'ailleurs de la faiseuse de rites amérindienne. À la fin des procès, elle se rétracta, renonçant totalement aux accusations qu'elle avait lancées contre les autres. Et surtout, elle refusa d'admettre qu'elle était vraiment une sorcière. Foudrage, le révérend refusa de payer sa libération. Elle resta en prison de nombreux mois supplémentaires avant d'être achetée par un marchand de Boston. Tituba mourra quelques années plus tard, en portant son secret dans sa tombe. Alors les procès de Salem ne seraient-ils qu'une vulgaire machination publique et une affaire de vengeance entre familles? Rien n'est moins sûr, mais Vous l'admettrez comme moi. Cette théorie est pour le moins troublante. En tout cas, l'affaire Salem aura coûté la vie à 24 femmes, 5 hommes, dont 3 étaient pour le moins riches et éduqués. Un ancien policier fut condamné pour sorcellerie après avoir refusé d'arrêter d'autres femmes. 2 des femmes, enceintes au moment de leur condamnation, furent pendues aussitôt l'accouchement réalisé. En bref, une horreur totale, une parodie de justice et une fausse légende noire accusent le diable de tous les maux. Je vous propose aujourd'hui de nous quitter avec une citation d'un auteur talentueux qui s'est penché sur les procès de Salem. Arthur Miller, c'est son nom, rédigea un ouvrage en 1953 que je vous conseille vivement de lire si vous souhaitez en apprendre davantage sur les méandres de cette affaire. Je vous laisse avec l'une des citations de son ouvrage qui aurait fait réfléchir à coup sûr les membres de la Cour de justice de Salem. Ne tremblez pas devant le jugement de Dieu, car il se peut que Dieu punisse les menteurs, mais il sera sans miséricorde pour ceux qui auront fait abandon de leur vie par orgueil. Voilà donc pour ce récit que j'ai eu le plaisir de partager avec vous grâce à la plume de Valjean.
L'heure H. Jean-Louis Lahaye.